Grande Interview. L'actualité en profondeur sur Radio Okapi, c'est dans Grande Interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les spécialistes et les acteurs qui font l'actualité. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, 13h05 et 19h35.
Bien, comment réagir en cas de crise d'épilepsie? Une personne peut connaître une crise, une crise d'épilepsie en route ou dans un autre endroit public, pris de panique devant un inconnu qui fait des convulsions impressionnantes. Ceux qui assistent à la scène ne savent pas généralement quoi faire. Ils sont pris de panique. Alors, savoir comment réagir et quoi faire en cas d'une crise d'épilepsie est important pour porter secours, n'est-ce pas, à une personne victime d'une telle crise. Alors, quels sont les gestes à poser et à poser et à ne pas poser? Voilà, il y a des gestes qu'il faut faire et d'autres qu'il ne faut pas faire. Voilà, il est important de connaître tout cela. Nous en parlons dans quelques instants avec notre invité, docteur Élisée Kisioko. Il est promoteur de l'Association congolaise des épileptiques et proches. Vous avez des questions, vous avez des témoignages, des préoccupations, composez les 099-706-6394. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Docteur Élisée Kisioko, encore une fois, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup.
Voilà, la première question de savoir, on parle d'une crise d'épilepsie. C'est quoi d'abord l'épilepsie?
Merci beaucoup. Je commencerai peut-être par expliquer que je ne suis pas le promoteur de l'Association congolaise des épileptiques et proches, mais je suis le président provincial de la province de Kwilu de l'Association congolaise des épileptiques et proches.
Ah, d'accord.
En fait,
président provincial.
Merci beaucoup. L'épilepsie, en fait, c'est une maladie neurologique. Quand je parle de la maladie neurologique, je vois ce qui touche le système nerveux central, en l'occurrence le cerveau et les voies de connexion qui sont les nerfs. En fait, avec l'épilepsie, ce qui se passe, c'est en réalité de l'électricité au niveau du système nerveux. La maladie est caractérisée par une décharge ou une production anormalement excessive de signaux électriques au niveau de plusieurs neurones qui se situent au niveau du système nerveux central. Elle se manifeste par des crises convulsives qui peuvent ou ne pas toujours s'accompagner d'une perte de connaissance. Par rapport à l'épilepsie, ce que nous devons dire d'abord, c'est que c'est une maladie négligée, une maladie très mal connue par notre population. Elle est associée à plusieurs préjugés, des fausses croyances.
Qu'est-ce que les gens croient? Que c'est de la sorcellerie?
Dans la plupart des cas, les gens pensent que c'est une sorcellerie. D'ailleurs, on a réalisé certaines études avec docteur Marie-Pierre Mopepe à l'Université de Kikwit. Dans le cadre de son travail de fin d'études en médecine, on a constaté que plus de 60% des personnes pensaient que l'épilepsie était d'origine sorcellerique. Voilà.
Alors quand on est en cours de route, voilà, une personne, un inconnu, voilà, commence à convulser, il fait une crise d'épilepsie. Alors généralement, les gens sont pris de panique, on a peur, on s'est dit bon, c'est la sorcellerie.
On le fouille même, on laisse la personne toucher. Oui, il y a des gestes, des secours à poser. Premièrement, quand vous vous rendez compte que la personne est en train de faire sa crise, il va chuter, il y a possibilité d'amortir la chute. Si vous êtes souple, vous pouvez les tenir et les déposer calmement pour qu'ils ne puissent pas se cogner. Parce que quand ils se cognent là, il peut faire une hémorragie cérébrale. Ce qui va les tuer, c'est pas sa crise d'épilepsie en réalité. C'est pas la maladie épileptique, mais c'est plutôt la crise qu'il a connue et les circonstances des survenues. Il faut en réalité se rassurer d'une bonne respiration.
Donc la première chose à faire, c'est de protéger la tête, si on peut le dire ainsi.
D'abord, tenter d'amortir la chute si c'est possible. Si la personne est déjà tombée, rassurez-vous qu'il est en train de bien respirer et cherchez à protéger sa tête. Parce qu'à la phase clonique, il y a des secousses qui se font. quand le malade fait ses secousses, il y a des micro-chocs qui vont atteindre le cerveau. Donc il y a possibilité d'interposer entre sa tête et le plan du sol, s'il est tombé sur le sol, interposer un objet qui pouvait réduire les chocs, l'onde des chocs qui devait arriver au niveau du cerveau. Si tu es bien habillé, tu rencontres une personne dans de telles circonstances, il y a possibilité d'enlever même sa veste et mettre en dessous de sa tête pour le protéger. Voilà.
Et pour éviter les chocs.
Oui.
Mais il y a certains qui tombent même, qui peuvent tomber dans un caniveau. Si la personne était à côté d'un caniveau, ils peuvent même tomber dedans.
Bien sûr, quand ils tombent là, les circonstances de survenue de la crise sont plus dangereuses. Il peut connaître un problème plus sérieux que la maladie elle-même. Mmh. Et c'est comme ça que les conséquences seront néfastes. C'est comme ça qu'il faudrait porter secours à ces genres de
Le problème, c'est que les gens sont pris des paniques.
Les gens
ils ne veulent pas l'approcher. Généralement.
Ce que nous avons constaté dans plusieurs circonstances, les gens, bien qu'ils sont paniqués, mais ils approchent quand même.
Ils approchent pour observer,
pour étouffer et non pour poser les actes de secours. Ils ont peur, parce qu'ils se disent que la maladie se transmet en touchant la personne en crise.
C'est ce que certaines personnes pensent.
Bien sûr. On a fait ces études, nous parlons en connaissance de cause. Certaines personnes se disent que quand vous touchez la salive, parce que quand on fait la crise, des fois on est en train de baver, la mousse sort. Quand vous touchez la salive, vous serez contaminé. La maladie n'est pas contagieuse. La maladie ne se contamine pas. Mais quand vous laissez une personne dans cette situation, en fait, il est étouffé, il est en train de baver, il va s'asphyxier, il va pas bien respirer. Ce qui va tuer le malade, c'est l'asphyxie qui survient parce que vous n'avez pas posé les actes de secours. Il y a possibilité de...
Vous avez dit la première chose, c'est d'amortir les
amortir
chocs.
Amortir la chute.
Trouver quelque chose pour placer sous la tête.
Sous la tête pour réduire les chocs.
Qu'est-ce qu'il faut faire encore?
C'est rassurer de la respiration, libérer les voies respiratoires, essuyer la mousse si possibilité y est. Si la personne est tombée, le nez étouffé, il y a possibilité de dégager sa tête pour se rassurer que le nez respire normalement, la bouche respire normalement.
Donc il faut la coucher sur le dos?
Non, on la couche en position latérale gauche. C'est la position universellement connue des sécurités et les personnels de santé connaissent. Donc vous l'amenez en latérale gauche. Vous libérez, dégagez les voies respiratoires, essuyez sa mousse, la mousse aussi, il y en a dans la bouche, et essayez de surveiller la crise. Vous surveillez la crise en termes de temps. Parce que.
Ça peut durer combien de temps, cette crise d'épilepsie?
La crise d'épilepsie a plusieurs phases. Nous avons, la phase, tonique, qui dure 30 secondes en moyenne. La personne devient très dure. Après cette phase, il y a la phase clonique, la phase des secousses. La personne commence à faire des secousses. Cette phase peut durer 2 à 3 minutes. Quand vous vous rendez compte que cette phase va au-delà des 10 minutes, vous devez obligatoirement amener la personne à l'hôpital. Parce que là, c'est le médecin qui sait ce qu'il va faire. Il y a la phase de coma post-critique, qui prend de 10 à 15 minutes. Après ces secousses, la personne s'endort. C'est le coma post-critique. Mais il arrive, dans certaines circonstances, que la personne, après avoir dormi quelques minutes, après, il reprend la phase...
Les secousses,
voilà, la phase clonique. Là, nous sommes dans l'état des mal épileptiques. Il faut nécessairement amener à l'hôpital, il ne faut pas observer. Voilà.
Donc la première chose, vous avez dit amortir les chocs, essuyer si la personne est en train de baver, et puis la coucher
en position latérale de sécurité, oui.
Voilà, position latérale de sécurité, et puis libérer les voies respiratoires.
Bien sûr que oui.
Comment libérer les voies respiratoires? Peut-être l'enlever s'il était habillé en veste ou enlever les chaussures. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement?
En fait, là, nous voyons directement les voies respiratoires hautes, la bouche et le nez. Est-ce que la bouche est en train d'introduire de l'air, et si la personne respire, et si le nez n'est pas étouffé. En fait, il y a possibilité aussi
ça
de
ça peut être
dégager.
Étouffé par quoi?
La position de la chute, tu peux tomber la tête première, et puis tu es, en fait, le visage est couché au sol, vous êtes étouffé, vous ne savez pas bénéficier de l'air suffisamment.
Oui.
La mousse, là, qui sort de la bouche, empêche l'entrée de l'air. alors il faudrait essayer d'essuyer, voir comment on peut permettre une bonne respiration. Ne jamais étouffer, parce que quand les gens viennent, ils l'entourent, ils sont nombreux.
Oui, l'air ne circule plus
l'air
bien.
L'air ne circule plus bien.
Et certains prennent même des photos.
Voilà, donc vous êtes là en train de prendre des photos qui vous plaisent, mais en réalité, il y a la vie qui est en danger. Mmh. Donc il y a des gestes à poser dans ce sens-là.
Nous allons accueillir des auditeurs en ligne qui voudraient vous poser des questions. Marcel nous appelle de Mbujimayi et Floribert de Kisangani. Marcel Boto, bonjour.
Oui. Bonjour, j'appelle surtout de Kananga, pas de Mbujimayi.
Vous êtes plutôt à Kananga, on vous écoute.
Oui, moi je voulais un peu poser, et bonjour aussi à l'invité, je voulais lui poser une question. Est-ce que l'épilepsie c'est une maladie héréditaire? Ça c'est la première question. Parce qu'avant-hier, j'ai vu seulement au niveau de El Michel, sinon dans les ronds, là où il y a le quartier général de la Monusco. Il y a une dame qui partait vendre ses bananes, mais sur place, elle est tombée. Parce que l'invité vient de dire que non, ça, le mouvement dure 30 secondes. Mais nous avons vu que ça a pris plus d'une heure du temps, la personne était debout, et les roulages ont barricadé quoi, la route, parce qu'elle était au centre même du rond-point El Michel, en face de la Monusco. Mais ça a pris beaucoup de temps, bon, pas une heure seulement, même dans les 50 minutes 40. Alors c'est pourquoi je pose cette question.
Alors quand cette dame est tombée, Marcel, qu'est-ce que les gens qui étaient tout autour, qu'est-ce que vous avez pu faire?
Personne n'intervenait, même en haut, parce que je ne sais pas si vous êtes déjà chez la Monusco ici, il y a même l'étage, même les gens de la Monusco regardaient, ce sont qui sont venus un peu intervenir, les blancs là, pour récupérer la dame et l'amener au coin. Parce que tout le monde, c'était comme si l'objet venait de l'administration, parce que c'est au centre-ville, les élèves, les étudiants, les gens passaient, regardaient seulement les mouvements là, comme la dame était, parce qu'elle partait vendre les bananes, puis était tombée sur terre. C'est même les gens de la Monusco, après 40 à 50 minutes, s'est réveillé, ils ont pris ces bananes, et là, on l'a réveillé, ils ont pu se rentrer à la maison. C'est pour cette raison que je voulais aussi poser à l'invité. Est-ce que ça informe quelqu'un déjà que non, vous allez tomber sur place ou ça surprend aussi la personne? C'est ça mes préoccupations.
D'accord, merci Floribert de Kisangani, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute.
J'ai une question à poser à notre invité. Si cette maladie est incurable ou comment? Parce que j'avais un ami souffrir avec ça. On a fait toutes les recherches pour avoir les médicaments modernes. On n'a pas trouvé. On les traitait toujours avec des médicaments traditionnels. Et jusqu'à là, il avait rendu là, mais en tombant dans l'eau. Bon, je demande à l'invité s'il peut nous donner les médicaments modernes ou que la maladie est incurable.
Alors, dites-nous. Oui, dites-nous, votre ami était décédé, il était tombé dans l'eau.
Oui, il était tombé dans l'eau. Il était parti donc à la forêt chercher les médicaments traditionnel et subitement était tombé dans l'eau avec l'épilepsie toujours.
Est-ce qu'il n'y avait pas des gens tout autour qui pouvaient le secourir?
C'est en retard. Après avoir tombé dans l'eau, passé 30 minutes dans l'eau, donc on était arrivé en retard, après avoir l'âme perdue.
D'accord, merci à Floribert, docteur Élisée.
Oui, monsieur le journaliste.
Marcel de Kananga nous dit qu'une dame qui est une vendeuse de bananes est tombée en pleine rue et elle est restée là pendant presque 40 minutes et tous les gens qui étaient tout autour, c'était devenu un spectacle et personne n'est venu porter secours.
Voilà, donc prochainement, comme ils ont l'information, quand il y a une situation pareille, il faut prendre la personne, la conduire à l'hôpital. C'est là, on était déjà dans l'état des mal épileptiques. C'est une situation grave qui ne pouvait pas se gérer dans la rue. Il faut l'amener à l'hôpital pour qu'on prenne en charge. En fait, pour répondre à sa question, si la maladie est héréditaire. En réalité, parmi les causes de l'épilepsie, nous avons des causes héréditaires. La personne hérite de ses prédécesseurs, de son ascendance, des gènes qui vont coder pour un dysfonctionnement de nerfs, un dysfonctionnement de la membrane neuronale. C'est-à-dire de tes parents ou de tes grands-parents, tu peux devenir épileptique parce qu'eux ont aussi souffert de la maladie. Donc il y a une portion héréditaire, mais dans la plupart des cas, comme on peut dire à 80%, ce sont des causes acquises que nous avons dans notre société.
D'accord. Et maintenant, pour le cas de cette dame, on l'a laissée comme ça traîner pendant 40 minutes et après, quand elle s'est réveillée, on lui a remis ses bananes en lui demandant de rentrer carrément à la maison. Est-ce que c'est une bonne attitude ou pas?
C'est très dangereux parce que là, c'était pas dans un milieu dangereux. Mais si c'était à côté du feu, il devait se brûler. serait plus grave. C'est à côté de l'eau. Vous ne l'emportez pas, ce courrier devrait se noyer.
Ça, vous avez suivi le cas de l'ami de Floribert qui s'est noyé.
Donc ça, c'est
qui est mort par noyade.
Ce sont la plupart des témoignages que nous avons partout où nous passons quand nous faisons nos campagnes de sensibilisation. Donc les gens meurent surtout dans plusieurs circonstances, des noyades, des brûlures, d'accidents cérébrovasculaires et tout consort. Donc il faut porter secours. Dans des situations comme ça, vous portez la main, apportez la personne à l'hôpital si vous ne savez pas poser les gestes de secours. Voilà.
Alors, pouvez-vous, donc, si on posait des gestes de secours, on peut sauver la personne?
On sauve la personne parce que la circonstance de la crise pouvait être néfaste. Mais après que le malade soit réveillé, il faut l'orienter vers une unité de prise en charge. C'est comme ça que je devrais en profiter pour répondre directement à la deuxième question, si l'épilepsie est une maladie incurable. Épilepsie, c'est guéri. L'épilepsie à 80% c'est guéri. Mais cette guérison dépend du temps d'intervention. C'est-à-dire le temps que vous laissez le malade souffrir, continuer à faire des crises, la maladie va toutes les fois que la personne fait des crises, il y a une agression cérébrale. La maladie va léser, détruire le cerveau. Ça te renseigne que la maladie va arriver à un état de chronicité tel qu'on peut poser les actes. Mais là, ça sera plus pour guérir, ça sera peut-être pour réduire les crises. Mais si vous intervenez tôt, quand vous constatez déjà les crises d'épilepsie et que vous l'amenez à l'hôpital, il y a possibilité que le malade trouve guérison. À part ça, il y a aussi un problème d'éducation et de coopération du malade. Parce que quand on donne les médicaments malades, il prend les médicaments de façon indisciplinée. Aujourd'hui, il prend des médicaments.
Demain, il prend pas tout ça.
Et
oui.
Tout ça, voilà, vous rendez aussi tâche difficile au médecin qui a pris les médicaments. Le traitement, c'est un traitement long cours. Vous devez prendre le traitement plus de 2 ans, par exemple. Chaque jour, tu dois prendre ton traitement. Mais il se pose des problèmes d'éducation. C'est-à-dire la personne ne sait pas prendre régulièrement ses médicaments. Des fois, il oublie. Et puis, voilà. Donc, les circonstances de traitement devraient aussi apporter solution.
Vous avez suivi Floribert à poser la question de savoir est-ce que lorsqu'une crise survient, elle s'annonce déjà ou bien c'est tout simplement une surprise?
C'est, en fait, on découvre l'épilepsie par surprise. Par surprise parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans les cerveaux. Vous pouvez avoir une histoire telle que vous avez connu une maladie qui a agressé les cerveaux, par exemple le neuropaludisme. On a guéri le neuropaludisme alors que le neuropaludisme a laissé des séquelles au niveau du cerveau. Vous allez seulement constater une crise par surprise un jour. Vous connaissez une crise alors que...
En cours de route, par exemple,
au boulot, et puis... Vous êtes surpris vous-même de connaître cette crise. Mais dans la définition de l'épilepsie, on parle de nombre de crises. Si la personne fait plus de 2 crises à l'espace de plus de 24 heures déjà, on pense à l'épilepsie.
Et si déjà la personne, le sujet a déjà connu une crise avant, est-ce que si une deuxième crise arrive, est-ce qu'il y a des signes, des choses qui peuvent prévenir que, attention, une crise peut survenir?
En tout cas, c'est difficile.
C'est difficile.
Généralement, c'est par surprise. C'est une crise soudaine, une crise qui vient d'emblée. Vous êtes surpris, même vous qui êtes à ses côtés, de voir que la personne est en train de faire la crise. Vous surveillez la crise. Et puis, mais sinon, ça ne s'annonce pas. Ça ne s'annonce pas en réalité. Alors, dans la minorité des cas, il y a un cri qui s'annonce. Le malade va faire un cri avant de tomber. Bon, ces cris aussi ne durent pas plusieurs secondes. Dès qu'il crie, tombe, donc la crise est déjà là. Donc c'est par surprise qu'on connaît la crise. Voilà.
Alors faut-il chercher rapidement à la cheminer dans cet état-là, dans un centre de santé à côté ou qu'est-ce qu'il faut faire?
Bon, d'habitude, on demande d'abord d'observer. Poser les gestes qui ne peuvent pas étouffer la personne et tout consort. Vous observez jusqu'au réveil. Après, vous conduisez la personne à l'hôpital. Vous lui demandez de voir un médecin pour se trouver une prescription. Mais si la crise va au-delà de 10 minutes, il faut l'acheminer à l'hôpital. Il faut l'acheminer à l'hôpital parce que les centres de santé sauront ce qu'ils vont faire. Et le centre saura ce qu'il va faire, bien sûr. Et le médecin qui va recevoir le malade saura ce qu'il pouvait poser comme acte. Quels sont les conseils à donner pour éviter les éventuelles crises?
Jules nous appelle de Lubumbashi. Jules Kazadi est en ligne depuis la ville de Lubumbashi. Bonjour Jules. Jules, vous êtes en ligne, bonjour. Alors, Jules n'est pas là, on va peut-être l'accueillir, le recevoir tout à l'heure. Nous sommes en train de parler d'une crise d'épilepsie qui survient. Quels sont les gestes à poser? Y a-t-il d'autres gestes à poser, monsieur docteur Élisée?
Oui, en fait, l'essentiel par rapport à la crise, c'est presque ce qu'on a donné. Hein, et parmi les gestes à ne pas poser, c'est en fait s'opposer au mouvement automatique.
À l'instant, on va accueillir Jules Kazadi de Lubumbashi. Jules, bonjour.
Bonjour, monsieur Jodier, bonjour à l'invité.
On vous Merci. Écoute.
En tout cas, nous avons quelques préoccupations à poser à notre invité. Hein. Donc, ici, nous savons que quand quelqu'un tombe, hein, quand il tombe, les gens ont tendance de le fuir hein, parce que on sait que non, quand il fait les gaz, et l'entourage là, si vous pouvez aussi être contaminé par rapport à ces gaz-là, c'est pour cela que les gens les fuient, ou soit ils évitent hein, de les toucher, tout ça. Alors, je voulais poser à l'invité, est-ce que même si la personne tombe, vous pouvez la porter secours, parce qu'il fait les gaz, est-ce qu'il n'y a pas de conséquences? C'est la deuxième préoccupation, c'est... est-ce que cette maladie-là, c'est une maladie héréditaire ou on l'attrape soudainement comme ça c'est ce que je voulais savoir aussi par rapport à ça.
Bien, Joseph Pungu, vous êtes à Kindu, bonjour.
Bonjour Monsieur Jordi, bonjour à notre invité, à tous les auditeurs de la radio de la paix. Alors que
nous parlons,
j'avais quelques préoccupations à demander à notre invité. J'aimerais savoir si cette maladie est contagieuse ou héréditaire. Parce
Jules,
que nous vivons ici les cas ici chez nous.
Oui.
Lorsque quelqu'un qui a cette maladie, une fois s'il tombe, alors les gens ont peur même de le toucher. Sinon, s'il a une gaz, ça peut contaminer quelqu'un. C'est pour cette raison que j'aimerais demander à notre invité si cette maladie peut être contagieuse ou héréditaire. Parce que celui qui détient aussi cette maladie peut avoir un enfant, est-ce que ça peut vraiment hériter vraiment cette maladie? L'enfant peut hériter cette maladie. Alors, la deuxième préoccupation, j'aimerais demander à notre invité, quelles conditions qu'on peut vraiment donner à celui qui détient cette maladie pour qu'il vive vraiment à un état un peu normal? C'est ça vraiment ma préoccupation.
Bien, docteur Élisée.
Merci, monsieur le journaliste.
Les gens ont peur de toucher la personne qui fait une crise. On dit que cette personne dégage un gaz qui peut contaminer les autres.
Voilà, donc on va en profiter pour répondre à ces deux questions.
Oui.
La maladie n'est pas contagieuse, je le répète.
L'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse.
La maladie n'est pas contagieuse. Que ça soit par les flatulences, comme ils l'ont dit, que ça soit par les contacts physiques, la maladie ne se transmet pas. Tu peux vivre et manger, tout faire, même ces gaz-là.
Il y a un gaz que le malade dégage.
Bon,
le malade
pendant la crise, il arrive des fois qu'avec le phénomène de relâchement sphinctérien, il peut d'ailleurs faire les selles. Donc, avant que les selles n'arrivent, ce sont d'abord des gaz qui sortent. Mmh. Donc, les gaz-là ne peuvent pas contaminer la maladie. Donc, oubliez ça. Et par rapport à la cause héréditaire, moi, je souhaitais qu'on parle des causes de l'épilepsie à ce moment pour que cette question ne nous revienne plus. Quelles sont les causes de l'épilepsie? Nous avons dit que nous avons à 20% des causes héréditaires. C'est-à-dire, toi, tu es né d'une famille qui a connu un épileptique, tu as possibilité à 20% de contacter la maladie. Donc, quand il y a une histoire familiale de l'épilepsie, tu peux être aussi victime de cette maladie. Ça, ce sont des causes héréditaires. Nous avons des causes acquises. Là, on parle des épilepsies symptomatiques. Parmi ces causes, nous avons des causes traumatiques. On parle, par exemple, des accidents de moto. Quand quelqu'un connaît un accident, il cogne sa tête et tout ça.
Lorsque la tête est touchée,
Vous pouvez être en coma, on vous sort de votre coma, mais plus tard, vous allez développer des crises épileptiques séculaires. les coups sur la tête. En classe, par exemple, les enseignants ont l'habitude de donner des coups sur les têtes des élèves. Mmh. Ça, c'est prohibé. Parce que quand vous faites des coups là, plusieurs fois, l'onde de choc atteint le cerveau et le cerveau peut se léser. Voilà, on va développer plus tard des crises d'épilepsie, c'est clair. Nous avons des causes vasculaires. Aujourd'hui, le phénomène AVC, ça c'est un problème. Beaucoup de gens, beaucoup d'hypertendus avec le stress psychosocial actuel, les gens font plusieurs crises d'AVC. Et on peut traiter la crise, on sort la personne du coma, mais à la longue, il va développer des crises d'épilepsie. Nous avons des causes infectieuses. La malaria cérébrale, le neuropaludisme en réalité. La trypanosomiase humaine africaine, ça aussi dans les milieux endémiques. La neurocysticercose, nous consommons la viande de porc dans des restaurants, dans n'importe quelle condition, n'est pas bien préparée, tout qu'on sort, pas vu par les vétérinaires.
On tout consomme. Ça, donc on retient qu'il y a plusieurs causes.
Par rapport aux causes infectieuses, les conditions de maternité dans certaines circonstances. On donne naissance dans des chambrettes qui ne sont pas salubres, les enfants qui sortent peuvent connaître des infections autres. Nous avons plusieurs causes, on ne va pas passer le temps là-bas, mais il y a aussi
nous parlons
des
beaucoup
formes,
plus de réactions à
il y a aussi
personne...
des formes cryptogéniques, c'est-à-dire vous cherchez la cause, il n'y en a pas.
Voilà, il y en a pas.
Les médecins cherchent, ils ne trouvent pas une cause précise de la maladie.
Mais ceux là qui pensent que s'il s'agit d'un cas de sorcellerie, et puis bon, on peut pas tenir la personne parce que on sait pas qu'est-ce qui se passe.
Ce sont des préjugés, des fausses croyances que nous avons sur la maladie. C'est pour ça que nous devons sortir l'épilepsie de l'ombre. Les gens doivent comprendre que c'est une maladie qui trouve ses origines dans ce que nous faisons, dans l'environnement aussi, de nos parents, nos grands-parents. Dire l'épilepsie, en tout cas, c'est pas un problème de sorcellerie. C'est pas un problème de malédiction. L'épilepsie, c'est une maladie comme toute autre maladie qui pouvait toucher le corps humain.
Mmh. Les autres gestes à poser en cas de crise d'épilepsie?
En fait, ce que nous avons donné là, c'était déjà suffisant. Le reste, c'est le médecin qui est responsable, qui va recevoir l'épilepsie, qui saura ce qu'il pouvait faire. Voilà.
Voilà, il faut pas l'étouffer, il faut pas entourer en train
faut
de faire
entourer,
des,
faut pas faire
prendre des
bruit,
photos avec votre téléphone. Voilà. C'est le médecin qui doit s'occuper de la personne.
Oui. À part ça, nous avons reçu une autre question sur les conditions de vie. Qu'est-ce que l'épileptique doit faire pour éviter
des crises, pour prévenir des crises comme ça?
Nous avons trois règles d'or. Éviter les dettes de sommeil. Un épileptique ne peut pas veiller, que ce soit à l'église, que ce soit au deuil. Il ne peut pas veiller, parce que quand il a des dettes de sommeil, ça a des répercussions sur le fonctionnement de son cerveau. Son cerveau est déjà malade, il ne faut pas qu'il ait des dettes de sommeil. Il doit d'ailleurs dormir à plus de 8 heures. Donc les enfants restent des fois en chambre croyant qu'il est en train de dormir, il est en train de tchatcher, le terme qui est plus utilisé. Il utilise le téléphone jusqu'à 0h, 1h du matin. Il ne dort pas suffisamment. Un épileptique ne peut pas faire ça. Un épileptique doit dormir pendant longtemps. Prendre de façon régulière son médicament, sans omettre une seule prise un seul jour. L'épileptique doit prendre ses médicaments chaque jour s'il a vu son médecin, sans interrompre la crise, jusqu'à ce que le médecin va lui demander d'arrêter, sans interrompre la prise de médicaments plutôt, jusqu'à ce que le médecin va lui demander d'arrêter. Parmi les règles d'or, le troisième, c'est éviter les excès. Éviter les excès de fatigue, par exemple. Mmh. Vous travaillez durement jusqu'à fatiguer votre cerveau, c'est dangereux.
On va accueillir Mohamed Zola de Kananga. Mohamed, bonjour.
Bonjour, M. Dadi Daniel, et bonjour, docteur Élisée.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la crise d'épilepsie?
Oui, normalement, c'est Mohamed de Mboujmaï, ce n'est pas de Kananga, c'est de Mboujmaï.
De Mboujmaï, bien sûr, merci. Allez-y.
Oui, j'ai trois préoccupations de Dieu Dagné. La première, c'est que le docteur invité me donne un peu la différence entre épilepsie, petit mal et grand mal. Oui, Dédé, et pourquoi il est préférable de donner surtout cette position-là des décubitus latérales gauche. De trois, en quatrième phase d'épilepsie, il y a relâchement des sphincters. Je veux dire,
D'accord, merci, docteur Élisée.
Merci. J'ai l'impression que celui-là, si c'est pas un étudiant en médecine, ça sera un médecin ou un personnel médical. Bon, le grand problème, c'est qu'il devrait cadrer le débat parce que si nous sommes en train d'éduquer la masse. On n'enseigne pas aux médecins, donc ils doivent comprendre certaines histoires. Mais on peut quand même répondre la différence entre petit mal et grand mal. En réalité, quand on parle de petit mal, ce sont des crises d'absence. La personne a une suspension momentanée de toute activité qu'il était en train de réaliser. La personne n'a
elle reste immobile pendant
immobile, un moment. Calme, en train de regarder, mais parfois il ne voit pas.
Un regard vide.
Donc il est là, ce sont généralement les enseignants qui le constatent. Vous posez la question à l'enfant pendant que vous êtes en train d'enseigner. L'enfant est calme, il ne répond pas, ne réagit pas. À la maison, si l'enfant avait porté des histoires fragiles, vous vous rendez compte que l'enfant lâche même ses assiettes qui vont se casser. Mmh. Il est debout en train de regarder. Pour certains, des fois, il prenait sa direction, il est arrivé à la destination, mais il va dépasser la destination, il avance, il ne sait pas où est-ce qu'il va. Il y a une suspension momentanée de la conscience et de différentes autres activités.
Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là?
C'est une forme d'épilepsie.
Est-ce qu'il faut bouger la personne?
Non,
la
secouer, ça c'est sa crise qui est survenue un moment et ça va passer. Dès qu'il reprend conscience, la personne avisée va lui demander de consulter un médecin pour qu'on trouve des précautions.
L'entourage ne fait rien, on l'observe à ce moment-là.
Non, vous ne faites rien parce qu'il y a seulement suspension de la conscience, mais il n'y a pas de crise convulsive. L'épilepsie grand mal, c'est la majorité des crises que nous connaissons, c'est tout ce que tout le monde pouvait connaître, tout ce que nous voyons là. Parce que les crises d'absence, nombreux ne s'en rendent pas compte. Mais les crises d'épilepsie grand mal, tout le monde peut voir, la personne va connaître des crises convulsives. Et cette phase-là va évoluer, cette épilepsie grand mal va évoluer à plusieurs phases. Nous avons parlé de la phase tonique, la personne devient très dure, il s'étire. Après un moment, c'est la phase clonique, des secousses vont venir. Après ces secousses, il y aura endormissement. La personne va entrer en coma post-critique. La position de sécurité, pourquoi un décubitus latéral gauche? Nous connaissons des vaisseaux qui passent en dessous du diaphragme venant de la cage thoracique pour descendre au niveau abdominal. Du côté gauche, nous avons la grande portion de l'estomac qui est un organe creux dans l'abdomen. Si vous allez en position gauche, l'estomac reste de son côté. Il ne va pas coincer les vaisseaux, l'artère, l'aorte descendant abdominale, la veine cave inférieure et autres qui vont descendre par là. Mais si vous mettez le malade...
Est-ce qu'il faut par exemple desserrer la ceinture si le monsieur avait...
Oui, on peut desserrer la ceinture pour permettre...
Et enlever les chaussures aussi.
C'est possible, ce sont les gestes qui peuvent aussi apporter quelque chose. Donc si vous mettez la personne en décubitus latéral droite par exemple, l'estomac va coincer ces vaisseaux, il y aura un problème de circulation. Donc, il doit comprendre pourquoi, étant personnel médical, on demande de prendre la position latérale gauche. Bon, combien de fois la personne fait des relâchements sphinctériens, ça dépend du nombre de crises.
C'est quoi un relâchement sphinctérien? En des termes beaucoup plus simples.
La personne, pendant la crise, peut émettre des urines
ou des sels.
Peut émettre des sels. De façon inconsciente, il y aura émission de sel et autres. Alors, cette fois-là, ça dépend du nombre de crises que la personne va faire. Ça peut être une seule fois, ça peut être deux, trois fois. Ça dépendait du nombre de crises que la personne a connues. Voilà. Je pense que j'ai répondu à ces préoccupations. Merci.
Gaël Dixon nous appelle de Lubumbashi. Bonjour, Gaël.
Oui, bonjour, je dis bonjour, c'est un invité.
Nous parlons des gestes à poser en cas de crise d'épilepsie. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet?
Oui, avant que je ne puisse poser mes questions, je voudrais d'abord donner un témoignage que j'ai vécu ici. Il y a un grand frère d'un ami qui s'est préparé pour se marier. Alors, à quelques jours du mariage, il était devenu épileptique. Du coup, le mariage n'avait pas eu lieu. Et on l'avait amené chez le, puisqu'on avait fréquenté presque tous les hôpitaux de la place, mais on n'avait pas trouvé solution. Mais bon Dieu, et Dieu merci, on avait recouru à des pratiques des médecins traditionnels qu'on avait essayé un peu de retrouver la solution. Alors mes questions c'est de savoir, est-ce qu'il y a-t-il un rapport entre l'épilepsie et l'évanouissement? Ça c'est la première question, parce que souvent on confond l'épilepsie et l'évanouissement, parce qu'on a tendance à craindre même les gens qui s'évanouissent à chaque fois lorsque leur évanouissement devient chronique Et aussi, la deuxième question est de savoir, est-ce que y a-t-il l'épilepsie, y a-t-il des médicaments vraiment qui soignent l'épilepsie? Et lorsque, puisque l'invité nous parle de pouvoir entretenir l'épileptique, est-ce que lorsque l'épileptique, qu'est-ce qui fait à ce qu'il y ait des mouvements acrobatiques lorsqu'il tombe? C'est ça a été mes questions, voilà un peu.
Bien, Alphonse Boudril nous appelle depuis Ngbokolo. Bonjour Alphonse.
Bonjour, je dis bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent à travers la radio La Savane Énergie par laquelle nous le captons jeudi. Et merci pour le sujet jeudi. J'ai deux petites préoccupations. La première, est-ce que la convulsion n'est pas contagieuse? Deuxièmement, est-ce que l'épilepsie n'a pas une dimension surnaturelle ou on dirait mystique? Parce que un de mes amis m'a dit que si par exemple quelqu'un est tombé, on l'est renversé, il faut seulement faire tout pour arracher quelques cheveux de sa tête et tout de suite là il serait guéri. Bon, je ne sais pas, est-ce que ça a une dimension un peu mystique?
Voilà, votre ami a dit qu'en arrachant les cheveux, la crise va s'arrêter.
Tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas, ça reste à vérifier avec l'invité.
D'accord. Merci Alphonse. Docteur Élisée.
Merci. Je vais commencer par répondre à cette question. Si l'épilepsie n'a pas de dimension surnaturelle. En fait, nous sommes en train de lutter contre cette perception erronée de l'épilepsie. La dimension surnaturelle ou pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait expliquer comment la sorcellerie peut amener à l'épilepsie? Ça, c'est un peu compliqué. Donc, nous luttons contre ces préjugés. C'est question de croire que c'est une maladie. Vous l'amenez à l'hôpital, le médecin va trouver solution. Y a-t-il des médicaments qui soignent l'épilepsie? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, sauf que nous avons un problème. J'ai été à Kikwit. Nous avons vu les malades, on les envoie acheter les médicaments dans les pharmacies, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas pourquoi? Parce que les malades épileptiques n'ont pas l'habitude d'aller à l'hôpital. Comme ils ne vont pas à l'hôpital, les médecins ne vont pas prescrire les médicaments. Comme ils ne prescrivent pas, les pharmaciens font leur business. Un médicament qui ne se prescrit pas, à quoi ça va servir qu'ils le mettent dans sa pharmacie pour retarder son commerce? C'est comme ça que les pharmaciens, les gens qui font leur business n'amènent pas ces médicaments dans nos milieux. Il faudrait que les gens comprennent que l'épilepsie, c'est une maladie qui se trouve un traitement médical. Quand ils vont à l'hôpital que les médecins prescrivent, ils vont trouver maintenant dans les marchés des médicaments qui vont soigner l'épilepsie. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans les marchés, vous les trouverez. Mmh. Et c'est, il y a un rapport entre
épilepsie évanouissement chronique. Oui.
Bon, ce que je ne sais pas bien expliquer ici, c'est le terme évanouissement. De ma nature, je ne comprends pas bien ce que ça signifie. Mais l'épilepsie, c'est en fait une maladie qui se manifeste par des crises convulsives qui vont en fait se répéter. Donc, plusieurs fois, vous allez connaître ces crises. Si vous avez déjà une histoire de répétition des crises, vous vous dites que ça pouvait être probablement l'épilepsie. Et vous allez voir les médecins. Par rapport à l'anamnèse, les questions que le médecin va poser, il va fouiller dans votre histoire. Il pouvait déceler une cause pour conclure réellement que ça, c'est de l'épilepsie. Et voilà comment prendre en charge. L'évanouissement, bon, je ne sais pas bien expliquer les termes. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, vous allez un peu m'excuser.
Bon, il y a des gens qui tombent évanouis, on les dit. La personne était là et puis bon, elle s'écroule. Et puis voilà, c'est des choses qui arrivent aussi. Alors, voilà. Il veut savoir est-ce que ça peut se rapprocher d'une crise d'épilepsie ou pas.
En fait, si c'est une forme convulsive, ces convulsions en répétition, on peut dire que c'est de l'épilepsie. Donc, ça peut être de l'épilepsie que les gens comprennent mal. Parce que l'épilepsie, comme je l'ai dit en passant, c'est une maladie très, très mal connue par la communauté. On voit des crises. Comment ça s'est fait? Mais si c'est à l'église, on dira que la personne est en train de... Comment on dit? C'est la spiritualité, là. Voilà, donc beaucoup d'histoires là-bas.
Voilà, et puis une autre question, de savoir... Gaël Dixon veut savoir pourquoi ça s'accompagne toujours des mouvements acrobatiques. C'est comme ça qu'il appelle ça, des convulsions.
Oui, ces mouvements sont commandés par le système nerveux central. Vous savez que tout ce que nous faisons comme mouvement, que ce soit de façon normale, de façon consciencieuse ou de façon inconsciente, ce sont des mouvements qui sont commandés par le cerveau. Mmh. Il y a une hyper-excitabilité
du cerveau.
Les nerfs sont hyper-excités et cette décharge anormalement élevée va déclencher des mouvements anormaux, des mouvements synchrones, des mouvements automatiques commandés par le cerveau. Donc c'est le cerveau qui commande.
Voilà, c'est le cerveau qui commande. Alphonse dit qu'il y a une dimension surnaturelle. Un de ses amis lui aurait dit que si une personne épileptique tombe ou connaît une crise, juste aller arracher les quelques cheveux et la crise va s'arrêter.
Si nous sortons de cette dimension, nous pouvons apporter beaucoup de solutions à ce qui concerne l'épilepsie. Le monde extérieur a compris que c'était pas d'origine surnaturelle. On a mis au point des médicaments qui ont guéri. Donc, il faut cesser de croire que tout ce que nous faisons, c'est surnaturel. Non. Le corps a ses caprices. C'est une machine qui fonctionne. Tout comme le cœur qui souffre, les poumons peuvent souffrir, l'estomac va souffrir. Le cerveau, c'est aussi un organe qui peut souffrir. Donc, il faut croire que l'épilepsie, c'est une maladie du cerveau. Sortir de la perception surnaturelle de la maladie, on peut apporter solution à ces problèmes.
Docteur, pouvez-vous rappeler les gestes à poser, les gestes d'urgence à poser et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'une personne connaît une crise d'épilepsie?
Ne jamais l'étouffer parce qu'il a besoin de l'air. Il faut pas venir
l'entourer,
faire du bruit parce que la personne a besoin de l'air, il doit reposer son cerveau en cas de coma post-critique. Ne jamais s'opposer au mouvement automatique là, des acrobaties comme on dit.
Oui, comme...
En fait, il faut comme pas s'opposer à ces mouvements parce que ces mouvements sont commandés de façon involontaire.
Faut pas chercher à l'arrêter.
Quand vous l'arrêtez là, ça n'a pas d'effet. Il faut le laisser faire sa crise jusqu'à la fin. Quand il va se réveiller, vous l'essuyez, vous le conduisez à l'hôpital, demandez à ce que le médecin puisse le prendre en charge. Si la crise dépasse les niveaux, vous sentez que ça va au-delà de 10 minutes, vous le conduisez à l'hôpital. Mais chercher à arrêter ces mouvements, c'est pas utile. Ne jamais laisser la personne s'étouffer parce que vous avez peur que vous serez contaminé. Ne vous en faites pas. Vous ne serez pas contaminé. Touchez, portez secours, essuyez la personne, la salive, la mousse qui sort, dégagez ses voies respiratoires, essayez d'interposer, comme j'ai dit même, votre veste entre les plans du sol et la tête de la personne pour protéger son cerveau. Ça sera un geste bénéfique pour l'intérêt du malade.
Et protéger, c'est bien, comme le cas de cette dame vendeuse de bananes de Kananga. On a gardé ses bananes à côté jusqu'à ce que la crise passe.
Ça, c'est à louer. Il ne faut pas être sorcier jusqu'à appauvrir une personne si malade déjà comme ça, qui connaît sa crise. Vous en profitez pour voler. C'est comme le cas, j'ai rencontré une fois Pascal. La personne connaît la crise. Et les voleurs en ont profité, ils ont pris les histoires, ils ont fui.
Téléphone et tout ce qui est.
La police en train de regarder les voleurs fuir. La personne en crise, et là c'était encore grave.
C'était encore grave.
Donc essayons d'apporter secours. Nous devons assister les personnes qui font des crises. Voilà.
Anissé nous appelle de Kinshasa et Junior de Kananga. Anissé, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce sujet?
Oui, merci pour la parole. Je remercie également votre invité. J'ai mes préoccupations. Je voudrais demander à votre invité de me dire un peu quelles sont les mesures préventives qu'on peut prendre pour un épileptique. Et puis, ma deuxième question, je voudrais savoir pourquoi cette maladie reste toujours incurable. Parce que moi, je connais beaucoup de gens qui ont été malades et puis finalement on les amène à l'hôpital avec des traitements chez les tradis praticiens, mais ils n'arrivent toujours pas à être guéris. C'est pourquoi je voudrais demander à votre invité de me dire si cette maladie reste toujours incurable. Je voudrais encore demander pourquoi les personnes à tête de cette maladie ne dépassent pas l'âge de 25 ans. Hein, parce que moi, selon le constat que j'ai fait, si quelqu'un souffre de cette maladie, il peut vivre, mais pour dépenser 25 ans, apparemment, c'est un peu difficile.
Voilà, nous, aujourd'hui, nous parlons plus des gestes à poser lorsque la personne connaît une crise, mais docteur va quand même répondre à vos préoccupations tout à l'heure. Junior de Kananga, bonjour. Qu'est-ce que
bonjour,
vous avez...
Oui. J'ai juste une préoccupation que j'adresse à l'invité. Quel conseil que l'invité peut donner à une personne souffrant d'épilepsie qui désirent travailler dans une société. Parce que parlant de ceux qui souffrent, ce sont ceux qui sont caractérisés par la loi comme étant des incapables. Quel conseil que l'invité peut donner à toute personne souffrant de l'épilepsie?
D'accord, merci. Docteur Élisée. Mmh. Est-ce qu'une personne qui connaît des crises fréquentes d'épilepsie et ne peut plus travailler?
Là, je devais aussi l'interpeller. Il dit que ce sont des personnes incapables. Les épileptiques ne sont pas des personnes incapables. Les épileptiques ont droit à tout ce qui nous revient, nous autres qui ne sommes pas épileptiques. Les droits de travailler. Il peut travailler comme DG d'une entreprise, il va travailler normalement jusqu'à la fin.
Malgré les crises,
Malgré ces crises qui viennent spontanément, circonstanciellement. Mais en dehors des crises, la personne est valable. Il fait tout ce qu'il pouvait.
D'accord.
Il y a des travaux, bien sûr, nous allons parler. Il y a des travaux à risque, mais pas tout travail. Mm. Donc, par exemple, la conduite automobile, ça, il faut
que... Ça, une crise au volant, c'est...
Ça, c'est plus grave. C'est vous, grave. Les clients, lui-même, les chauffeurs sont vécus, qu'est-ce que vous devenez. Mm. Il y a des travaux, par exemple, l'utilisation des machines dangereuses, telles que des tronçonneuses. Au village, on fait le bois, tout ça avec des tronçonneuses. Quand quelqu'un connaît la crise pendant qu'il détient sa machine en main, il peut se couper son pied. Mm. L'arbre peut tomber sur lui, c'est un peu ça. La natation, par exemple, les gestes là, quand vous allez vous baigner, il faut surveiller, généralement on interdit, parce qu'il va se noyer si la crise.
Comme c'est le cas de ce monsieur à Kisangani.
Oui. Les charpentiers, donc on ne peut pas permettre un épileptique de devenir charpentier, parce que quand il connaît la crise en haut là, il va tomber, dans quelles circonstances, sur quoi il va tomber, on ne sait pas.
Mmh. Anissa nous dit que, comment prévenir les crises? Est-ce que ça, c'est possible de les prévenir?
Bien sûr que oui. Il y a des mesures. D'abord, bien suivre son traitement. J'ai donné les trois règles d'or. Bien suivre son traitement, éviter les dettes de sommeil, éviter les excès. Les excès. Quand on parle d'alcool, pour quelqu'un, pour moi, si je me dis l'excès d'alcool sur deux bouteilles de Primus, pour quelqu'un d'autre, ça peut aller à trois. C'est comme ça que quand on parle des excès, éviter les excès d'alcool, c'est un peu aussi imprécis. Pour nombreux, on demande seulement d'arrêter de prendre l'alcool. Parce que l'alcool a des répercussions sur le cerveau. Évitez les excès de fatigue. Les excès de fatigue. Quand vous êtes devant l'ordinateur pendant longtemps, vous fatiguez votre cerveau. Quand vous êtes devant votre télévision jusque plus tard, devant le téléphone, vous fatiguez le cerveau. Mmh. Les sports, il faut le faire de façon modérée, il ne faut pas trop fatiguer le cerveau.
Par rapport au traitement, faut-il aller voir les tradis praticiens, comme certains l'ont dit tout à l'heure?
C'est comme ça que l'ami qui nous a posé la question a dit que c'était pourquoi c'est une maladie incurable, parce qu'il a vu plusieurs fois les tradis praticiens. S'il avait au contraire vu un médecin, il y aurait peut-être, parce qu'on a dit à 80% la maladie s'est guérie, il y aurait peut-être chance de guérison. Donc les tradis praticiens n'est pas contre eux, ils font leur business, mais dans la médecine traditionnelle il y a plusieurs actes qui posent. Mm-hmm. Nous avons des chamans plutôt, il y en a qui font des impositions des mains, il y en a
des
qui font la phytothérapie, il y a des gestes qui peuvent apporter solution. Mais il y en a d'autres, non. Donc, il faut comprendre ce qu'ils font avec la médecine traditionnelle. Mais moi, je conseille à cet ami qui dit que c'est pourquoi c'est une maladie incurable d'aller voir un médecin.
Un médecin,
qui est informé, il saura ce qu'il pouvait faire. Il y aurait peut-être beaucoup de chances de guérir.
Donc, si vous vous retrouvez devant une personne qui connaît une crise d'épilepsie, donc il faut pas prendre distance, approcher pour porter secours et non pour comme observateur, comme c'est le cas, les gens observent et puis ne veulent pas la toucher.
Ça, c'est un souhait pour moi.
Bien, merci docteur Élisée Kisioko. Je rappelle que vous êtes le président provincial de l'Association congolaise des épileptiques et proche.
Donc, oui, merci. Dans le Kwilu. Dans le Kwilu, le siège, c'est à Kikwit.
À Kikwit. Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup. Je remercie tout le monde. Merci.